Bienvenue à cette nuit de Ressac. Donc là, l'Ossac, c'est un festival. Alors, il y a déjà des confusions au niveau des dates. Il y a plein de dates de Ressac. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure sur Internet et il y en a moins 5 ou 6 suivant les pays. Ici, on est sur les dates de l'Inde et du Népal. Le Népal étant l'endroit où le Bouddha est né, en fait. Et c'est un festival qui se fait traditionnellement chaque année, où il y a beaucoup de gens qui méditent toute la nuit pour célébrer l'année. C'est la date, la pleine lune de mai. Alors les autres diront la pleine lune d'avril, suivant, parce que c'était les calendriers lunaires et c'est un peu plus confus. Mais cette pleine lune est traditionnellement considérée comme la pleine lune où le Bouddha est né, où il a connu l'illumination et où il est décédé. Et donc c'est une grande date dans le bouddhisme, c'est un festival. En Inde, tout est fermé, tout le monde célèbre. Même les hindous qui eux, célèbrent tous les festivals religieux de toute façon. Donc c'est la pleine lune. En plus, elle est au périgée. Je vous disais, donc elle va être assez grosse. Ça veut dire qu'elle est au plus proche de la Terre. À l'apogée qui est au plus loin. Là. Donc, je vais commencer par parler un petit peu de certains aspects de la vie du Bouddha que je vais essayer de mettre en lien avec notre expérience. Le but est vraiment pas d'avoir quelque chose de scolaire ou de quelque chose de très intéressant, mais qui se connecte pas du tout à ce que nous on vit, mais au contraire de nous éclairer à travers ces histoires. Et bon, il y a énormément, évidemment, une vie extrêmement riche, et je vais prendre juste certains petits aspects que j'ai choisi, avec l'intention de donner de l'élan à cette nuit, avec l'intention de motiver la pratique, de motiver la recherche, et de donner des éléments de recherche. Donc, je disais, Siddhartha Gautama, de nom chacun oublie parfois, est né fils de roi, et donc a grandi dans un palais. Et en fait, son père avait reçu il y avait eu une prédiction qu'il serait soit un grand roi, soit un grand maître spirituel, ascète, maître spirituel. Et ça lui avait fait peur, en fait, au père de Siddhartha, parce qu'il avait peur que son fils se barre à faire la quête spirituelle et du coup ne lui succède pas pour le royaume. Donc il avait essayé en fait de le garder un petit peu à l'abri des questionnements profonds. Ouais, ça c'est l'histoire telle qu'on nous l'a dit. Mais ça n'a pas très bien fonctionné et lors de déjà visiblement très vite il s'est investi, il était très sensible à la souffrance du peuple, le royaume de Sakya, donc qui s'étendait dans le nord de l'Inde et au Népal. Et donc, il était très sensible à la souffrance du peuple. Et aussi, un jour, il y a eu un phénomène marquant pour lui. Il est sorti du palais et le même jour, il a vu une personne malade. Il a vu un corps passer qui allait au bûcher crématoire. Et il a vu un lépreux et un mendiant, je pense aussi. Et il a vu un sadhu. Donc, les sadhus sont les moines errants en Inde qui sont en recherche de liberté, d'approfondissement spirituel. Il y en a énormément, en fait, en Inde. Et ça l'a inspiré, en fait, et là, il a eu la révélation que, voilà, il a vu la révélation, en fait, il a pris conscience de l'amplitude de la souffrance humaine, à la fois dans son royaume et aussi de voir, de constater, comme on le sait tous, mais comme on a du mal à constater que, le fait de vieillir, la maladie, et puis l'approche de la mort, et la mort sont des moments très difficiles, donc qui contiennent de la souffrance. Et donc, il a pris vraiment très au sérieux, en fait, en se disant, mais il faut trouver un chemin pour se libérer, pour libérer l'humain de cette souffrance. Et dans une des discussions avec son père, parce qu'en fait, donc, son père l'initiait pour qu'il guide le royaume, qu'il devienne roi. Donc il participait au conseil, il était Il était avec les grands dirigeants, les dignitaires, avec le conseil de l'armée. Voilà, il ne disait jamais rien en fait. Et son père s'interrogeait et lui disait: Pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas ce que tu penses? Il dit: Parce que je vois les causes du mal, mais je ne vois pas la solution. Son père lui dit: Ah, mais qu'est-ce que c'est les causes du mal? Ben, il dit: Les causes du mal que je vois, c'est que tous les dignitaires, tous les gens qui t'assistent dans la gouvernance, les militaires, en fait, ils travaillent pour eux. Ils travaillent pour leur propre. Ils sont pris par l'égocentrisme, ils sont pris par l'avarice, ils sont pris par la jalousie. Et ils prétendent qu'ils sont vertueux, mais à l'intérieur, on voit très bien que ce n'est que manipulation et intrigue pour arriver à leur propre profit et ça crée la souffrance du peuple. Il dit: Et regarde ton bras droit, tu sais qu'il manipule pour son propre bénéfice. Mais tu ne peux pas te passer de lui parce que si tu le congédiais, ça créerait, il a trop d'influence et ça créerait des problèmes au niveau du pays. Donc tu es obligé d'accepter ça. Alors son père lui dit: Oui, mais toi qui vois ça si clairement, toi qui es si sage déjà, quand tu vas me succéder, tu vas trouver un chemin alors pour réussir à éliminer la corruption sans que ce soit le chaos dans notre pays. Et là, Siddhartha, il répond quelque chose qui, à mon avis, nous correspond, et c'est là qu'il y a un message qui est très fort, c'est qu'il correspond, mais je vois en moi les racines de l'avarice et de la jalousie. Comment pourrais-je, moi qui n'ai pas en moi trouvé la solution, guider un pays? Il faut d'abord que moi je trouve en moi la solution et que je me libère de ces racines qui créent de la souffrance pour pouvoir aider et intervenir à l'extérieur. Et donc, quitte donc sa femme et son fils qui est tout jeune à ce moment-là. Je trouve l'histoire, elle est très forte. Et vraiment, il quitte son fils motivé par la conviction qu'il existe un chemin pour se libérer de cette souffrance, qu'elle n'est pas obligatoire. Et il fait une grande différence entre souffrance et douleur. Hein, il ne cherche pas la fin de la douleur. La douleur est à quelque chose de physique, naturel, inévitable. Mais la souffrance, il pressent bien que c'est un rajout et que ça pourrait être évité. Il pressent qu'il y a des chemins. Et donc, il quitte et il prend la vie d'un ermite. Et la première chose qu'il fait, c'est d'aller voir un maître. Il va voir un maître qui est très réputé dans l'hindouisme à ce moment-là. Le bouddhisme n'existait pas forcément parce que c'est venu après son illumination. Donc là, c'est l'hindouisme. Lui, il a déjà appris les Védas, il a déjà commencé la pratique de la méditation, il a déjà l'esprit tourné à la spiritualité. Et il a entendu parler d'un grand maître et il décide d'aller le voir et il va donc demander pour recevoir ses enseignements. Là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant parce que souvent on a la notion que le Bouddha a trouvé tout seul le chemin. Mais en fait, il s'est inspiré des Védas, il s'est inspiré des gens. Il avait déjà rencontré beaucoup de sages et puis il a été rencontrer d'autres sages et apprendre d'eux. Savoir qu'est-ce que vous avez à m'apprendre. Et le premier maître qu'il a rencontré lui a appris tout ce qu'il savait. Alors, c'était visiblement un élève extrêmement talentueux qui avait une capacité de concentration. Et aussi, une dédication, ça se dit ça en français? Il était complètement dédié. Il était complètement dédié, complètement dédié. Vous imaginez, s'il quitte sa famille, son royaume, s'il quitte tous les fastes, toutes les facilités, tous les plaisirs. Il n'y a pas plus grand pas possible. Son esprit est tout tourné vers cette recherche. Et donc, il y travaille. C'est le seul de ses soucis. C'est la seule direction de son esprit. Parfois, il y a des disciples qui entendent dire qu'il est fils de roi et lui demandent comment c'était à la cour ou des choses comme ça. Toujours, il dit « Parlons plutôt de notre pratique. » Et jamais il ne veut aller retourner et laisser son esprit diverger. Et il est dit qu'en quelques mois, il apprend... Il il libère, ou il atteint une compréhension grâce aux enseignements de son maître. Il atteint une compréhension très très profonde, un état de concentration qu'on appelle les jhanas. Il atteint un état de concentration, s'appelle, bon, ça ne va pas beaucoup nous aider, mais ça s'appelle le royaume de l'immatérialité. Donc, c'est en fait une manière de voir en méditation que toute chose existe uniquement dans l'esprit. Toutes les choses que l'on connaît existent dans l'esprit. Et de voir et de comprendre ça en méditation. Bref, c'est un état dans le bouddhisme, il y a comme ça, il y a un pas à pas. Et ça, c'est déjà un état très avancé de méditation. Mais, donc, il rentre dans des états de concentration. Alors, quand on explore la concentration, vraiment, quand on utilise la concentration, on peut remarquer que c'est tellement notre attention qui soit périphérique, se focalise à un tel point, que peu à peu, on n'est plus du tout conscient de tout le reste. Comme un enfant, quand il lit un livre, vous pouvez l'appeler et tout, s'il est pris par son livre, il n'entend rien. Ce qui est complètement dedans. Et là, dans certaines pratiques de méditation, dans certaines approches de méditation, il y a des concentrations pour les gens qui arrivent, qui ont développé suffisamment la concentration, qui arrivent dans des mondes intérieurs dans lesquels ce qui est perceptible à l'extérieur n'existe plus. Mais quand il ressort de cet état, il remarque que les racines égocentriques sont toujours là. C'est pas parti. Il n'a pas encore trouvé la libération qu'il cherche. La libération de l'ego, la libération de l'intérêt personnel, la libération de tous les mouvements de frustration, de manipulation, de jalousie. Il voit que toutes ces graines sont toujours là. Il ne se sent pas libre de ça. Et alors il dit à son maître qu'il veut partir. Le maître l'invite à enseigner avec lui parce qu'il a maîtrisé la plus grande de ses sagesses et il se fait vieillissant. Donc il dit, tu pourrais reprendre après la cérémonie. Mais non, je voudrais continuer à chercher. Il s'en va. Il va rencontrer un deuxième maître avec qui il apprend un deuxième état. Aussi un état de concentration, un dhyana, le huitième dhyana. Et là, c'est de nouveau un état de concentration dans lequel, quand on rentre dans ce genre d'état, il n'y a plus l'émergence du soi. C'est-à-dire que, je voudrais essayer que ça ne soit pas théorique, je voudrais essayer qu'on essaye de ressentir un petit peu un état de concentration tel qu'il n'y a plus de... On n'a plus conscience qu'on est en train de méditer. Comme cette conscience, je médite là, quand on est bien présent, je médite et je sais que je médite, il n'y a plus ça. Il y a une profondeur telle qu'il n'y a plus la conscience de soi-même. Il n'y a plus la conscience du corps, il n'y a plus je suis Denis, je suis ceci, je suis cela, complètement disparu parce qu'il faut un mouvement d'esprit pour que ça. Il n'y a plus même, on n'est plus un homme ou une femme. Il faut se rappeler qu'on est un homme ou une femme quand on est complètement absorbé. Il faut un mouvement d'esprit, il faut une mémoire qui vienne. Les yeux fermés, complètement absorbés dans quelque chose. On n'est plus ces identités-là. Donc des états extrêmement profonds. Mais quand il ressort de là, il remarque de nouveau les racines de l'égoïsme, de l'égocentrisme sont toujours là. Les racines de l'avarice sont toujours là. Alors il décide de donner ses propres expériences. Il a suivi les traditions pendant longtemps et il se dit, j'ai cherché un petit peu par moi-même. Il se dit, le premier truc, c'est que je vois que ce qui me fait faire ce que je ne voudrais pas faire, et ce qui m'empêche de faire ce que je voudrais faire, c'est la peur. Alors il décide d'aller s'asseoir dans une forêt, qui est réputée en plus pour être dangereuse, parce qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages. Et donc il décide de s'asseoir là, de méditer et de ne pas ouvrir les yeux. Et nuit après nuit, il s'assoit. Il sue des grosses gouttes, parce que dès qu'il entend un cerf qui s'approche et qu'il entend le souffle du cerf, il croit que c'est des démons qui viennent pour le déchirer en morceaux. Ou dès qu'il entend un pan qui fait la roue, il croit que c'est peut-être son esprit, il imagine que c'est un cobra. Mais il a décidé de faire face à la peur et de ne pas y céder. Il s'entraîne, il apprend, il veut transcendé son esprit. Et il reste pendant des mois, nuit après nuit. Mais toujours, ça n'atteint pas ses racines. Il voit que sa personne et ses intérêts personnels restent là, ça revient, ses envies, ses tentations, ses désirs d'être quelqu'un de spécial, d'atteindre, d'être différent, comme on connaît tous. Et il se dit qu'il faut pouvoir se défaire de ça pour trouver la fin de la souffrance. Alors, il se dit, ben, maintenant je vais... C'est le désir, en fait. C'est le désir qui me manipule et qui me fait faire des choses que je ne voudrais pas faire, dire des choses que je ne voudrais pas dire. Il ne faut aucune faiblesse, aucune mollesse face au désir. Il faut se libérer complètement du désir. Et libre du désir, je serai aussi libre de l'ego. Et donc, il commence plusieurs mois, peut-être même des années, de tapasya, donc d'ascétisme. Mais lui va vraiment très fort à l'extrême. Au début, il m'en dit encore un petit peu, il a juste un petit bol par jour à manger, mais à un moment, il ne va même plus là où vont les hommes, il reste seul, et après rejoint par quelques disciples, je vais passer ça tout à l'heure, et il décide de ne manger plus que des racines, non plus que ce qu'il trouve. Il maigrit énormément, il perd énormément de force. Et un jour, il se rend compte en fait que c'est de la maltraitance. Il se rend compte que ce n'est pas non plus un chemin qui va libérer. La maltraitance de l'esprit ne va pas permettre de libérer. Il a essayé de, quelque part, on pourrait dire, tuer l'ego, mais il voit bien que en fait, c'est la mort qui viendra sans qu'il arrive à son but. Alors il se dit, j'ai essayé de transcender l'ego en allant dans des états dans lesquels l'ego n'apparaissait plus, il n'y avait plus de mouvement d'ego parce qu'il n'y avait plus de mouvement du tout. Mais quand j'arrête, ça revient. J'ai essayé de l'annihiler, ça n'a pas du tout fonctionné, mais les mouvements de l'égocentrisme, de l'individualisme restent et je m'affaiblissais. Maintenant, je voudrais voir d'où vient la source. Il se dit, peut-être la solution, c'est de voir d'où vient la source, mais qu'est-ce que c'est en fait cette sensation d'individualité? Qu'est-ce que c'est ce moi? Qu'est-ce que c'est ce je? Où est-ce qu'il se trouve? Et il commence à mener, et là, il s'agit vraiment d'une enquête. Il commence vraiment à mener une enquête, plutôt que d'essayer de tuer, de transcender, de se débarrasser de cet ego par tous les moyens, ou de cette individualité. Il voudrait la connaître. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce qu'elle vient? Et là, on parle de cette sensation qu'on a tous, cette sensation d'exister, cette sensation d'être moi. D'où est-ce qu'elle vient? Il explore. Il a un énorme pouvoir de concentration. Il passe son corps au crime. Il cherche. Où est le jeu? D'où émerge la sensation « j'existe » ? Et dans son corps, à nulle part, il trouve un endroit qui existe en lui-même et qui peut dire « ça, c'est l'ancrage du jeu, c'est la source de ma sensation d'exister ». Chaque partie de son corps existe en dépendance avec les autres parties du corps. Son corps existe et est dépendant de l'entourage. Il est dépendant de la nourriture, il est dépendant de la pluie, il est dépendant des vêtements. Il n'existe pas par lui-même et en lui-même. Il n'a aucune existence indépendante. Son corps ne peut pas être cette sensation d'être un jeu isolé, différent, au-delà, en dehors. Ça ne peut pas être dans le corps. Même le cerveau doit être nourri par la nourriture, sinon il ne fonctionne plus. Même le cerveau est dépendant de ce qui se passe à l'extérieur, complètement influencé, influençable. Il est un avec tout le reste. Il ne peut pas être considéré comme une identité séparée. Dans le corps, il ne trouve pas. Il cherche dans ses émotions. Émotion par émotion, il les revisite, il voit toutes les émotions, il observe une émotion. Est-ce que ma sensation d'exister est une émotion? Laquelle? toutes les émotions, pareil, sont en lien avec tout ce qui se passe autour, sont en lien, s'inscrivent dans le corps, sont en lien avec les pensées, sont en lien avec ce qui se passe dans mon environnement, sont en lien avec les saisons, la pluie. Il ne peut pas y avoir en soi séparé qui soit une émotion. D'où vient la sensation « je », d'où vient la sensation « j'existe » ? C'est ça qu'il cherche. On continue. Mais peu à peu, cette compréhension, en fait, prendre la place en lui, cette compréhension que rien de ce qu'il observe n'a d'existence indépendante. Il ne trouve pas une seule chose qui existe indépendamment. Et il se dit, mais il pourrait qu'il n'y ait rien. Se pourrait-il qu'il n'y ait rien en moi qui existe par lui-même, indépendamment du reste ? À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il n'y a pas un jeu, une entité séparée, un jeu, un Siddhartha, un demi. Et il décide de continuer à explorer. Et il sent qu'il est sur la bonne piste. Beaucoup de textes disent il sent qu'il est sur la bonne piste. Il sent que là, il va trouver quelque chose. Il va trouver la libération qu'il cherche. La libération de cette un, de cette sensation d'individualité qui fait souffrir, de séparation qui fait tellement souffrir. Il sent là qu'il va trouver quelque chose. Et donc c'est une nuit de pleine lune au mois de mai ou au mois d'avril pour les Chinois, que il s'assoit sous un arbre et il revisite toutes ses sensations physiques, toutes ses émotions, toutes ses perceptions, toutes les formations mentales, tous ces mouvements d'appréciation, j'aime, j'aime pas, tous les mouvements, tout ce qui s'observe, il revisite tout. Pour bien être sûr que dans rien de ce que j'observe là, je ne trouve la source de ma sensation d'exister. Il reste la conscience. Il reste la conscience. La conscience étant ce qui observe tout ça. Ceux qui voient les sensations physiques, ceux qui voient les émotions, ceux qui voient chaque pensée, ceux qui entendent chaque son. La conscience elle-même, ceux qui observent. Est-ce que ça, c'est moi? Est-ce que je, dans son identification la plus profonde, veux dire la conscience? Quand on dit je, est-ce que notre racine, notre essence, c'est la conscience? C'est ça qu'il explore. Et est-ce que cette conscience, elle est personnelle ou elle est universelle? Ça qui voit cette lumière qui passe à travers, qui passe et qui permet de connaître, est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est quelque chose d'universel qui passe à travers chacun? Et c'est là, en se posant ces questions et en allant au plus profond de ces capacités d'observation et de raisonnement, il y a du raisonnement dans la méditation, d'observation et de raisonnement, qu'il atteint l'illumination, la compréhension. Et vous savez ce qu'il comprend? Moi non plus. Mais par contre, je sais qu'on peut chercher. C'est ça. Et on n'a pas besoin de savoir, de toute façon, parce que ça ne nous aiderait pas beaucoup. Parce qu'il faut qu'on aille y voir par nous-mêmes. Ça peut fonctionner. Aller y voir par nous-mêmes. Mais il faut déjà, pour pouvoir faire ça, il faut comprendre ce qui est entendu par conscience. Parfois aussi traduit comme attention, l'attention. Pour le moment, normalement, l'attention du groupe et sur ma voie. S'il y avait un camion qui arrive dans le champ en klaxonnant, l'attention irait là-bas. Ok? Donc l'attention se déplace et elle voit. On dit notre attention. Mon attention est ici, mon attention est là, mon attention est là. En méditation, on ramène notre attention. On la ramène quelque part. Donc on peut jouer avec l'attention. On peut avoir une certaine maîtrise de cette attention qu'on connaît si peu, on ne sait pas ce que c'est. Mais on peut la diriger. Quand cette attention se pose sur quelque chose, cette chose est connue. L'attention se pose sur une pensée, la pensée est connue. L'attention se pose sur le souffle est connu. L'attention se pose sur une sensation physique, la sensation physique est connue. On est conscient du souffle, d'une pensée ou d'une sensation physique. C'est la conscience, l'attention, la conscience, on peut utiliser les deux mots. Le Bouddha n'est pas loin, bien sûr, le seul à se poser ce genre de questions et avoir cherché. Il semble avoir cherché d'une façon très complète et avoir eu une grande compréhension. Mais bien d'autres font des recherches. Et c'est en fait un thème qui est assez familier à la philosophie, par exemple. On voit, par exemple, la recherche de Descartes, qui nous a beaucoup influencé dans notre manière de penser. Hein? Est-ce que j'existe vraiment? Qu'est-ce qui me prouve que j'existe? C'est ça, en fait, sa question à Descartes avec le gros bouquin là-dessus. Qu'est-ce qui me prouve que j'existe? C'est fort, la question, quand même. Hein? Comment est-ce que je peux être sûr que j'existe? Et beaucoup par le raisonnement et de l'observation aussi, il en vient à la conclusion qu'on souvent entend dire « je pense donc je suis », mais qui en fait est un peu plus complexe que ça. Il en vient à la conclusion « je me pose la question de savoir si j'existe et je vois que je me pose cette question. Et du coup, je sais que j'existe. » Donc c'est bien la conscience. Ce n'est pas vraiment la pensée. Je me pose la question et je vois que je me pose la question. Ce qui authentifie mon existence. C'est ça, en fait, le résultat de sa longue recherche. Mais ce qui est un peu... Moi, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin et qu'après ça, ok, j'existe parce que je vois la pensée, mais est-ce que ce qui voit la pensée est individuel ? Universel. Est-ce que ce qui perçoit est individuel ou universel? La question reste ouverte. Ça aurait pu être poussé plus loin. Et c'est Nietzsche qui pousse un peu plus loin 200 ans après et qui répond un peu à Descartes en lui disant qu'en fait, c'est une erreur grammaticale que on a l'habitude conventionnellement de penser que toute action a un sujet, et donc je pense, donc je suis, mais pour Nietzsche, la pensée, elle émerge d'elle-même. Il dit personne n'est maître de la pensée, elle vient. Il n'y a pas un « je » qui décide de penser. La pensée a sa propre vie. Et donc il n'y a pas ce sujet « je ». C'est ce que je propose comme direction d'exploration cette nuit, c'est qu'il y ait bien sûr, cette notion de poser l'esprit, elle est essentielle. Poser l'esprit est essentiel en méditation. Donc quand on s'assoit, qu'on amène notre attention sur la sensation de la respiration, notre attention n'est plus dans les pensées. Les pensées ne sont plus énergisées parce qu'on ne les entretient plus, parce que c'est notre attention qui nourrit les pensées. Hein, enlevez votre attention de la pensée s'arrête. Donc, on décide cette nuit que notre objectif et notre intérêt n'est pas de nourrir nos pensées. On amène notre attention sur la sensation physique de la respiration, sur les sensations physiques du corps, ou sur les sons. Et ça va ralentir la pensée. On peut le constater. Et tout ça, moi je le dis comme si c'était des vérités universelles, mais chacun doit le constater pour lui-même. Est-ce que ça fait ça? Est-ce que ça fait vraiment ça? Quand on retire notre attention de la pensée et qu'on la ramène à quelque chose qui se passe dans le moment, qui est perceptible maintenant et qui n'est pas une pensée, est-ce que la pensée continue quand même? Ou est-ce que ça fait une pause et que la pensée reprend quand ça part? Et de toute façon, de nouveau à constater, mais ce qui me semble se passer, ce que je vois qui se passe pour moi, c'est que la pensée va ralentir à partir du moment où elle n'est plus entretenue. Les pensées vont arrêter de se chevaucher. Et parfois, ça se chevauche, parfois on pense trois histoires en même temps. Ben là, ça, en méditation, quand on pratique la méditation, ça n'arrive plus. Elles s'organisent les pensées, ou au moins déjà elles viennent une après l'autre. Parfois, il n'y a pas d'espace entre les deux, mais elles viennent une après l'autre, c'est déjà ça. Et puis parfois, quand on est plus on est concentré, plus il y a de l'espace entre les pensées, et on peut le constater. Et quand il y a de l'espace entre les pensées, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sensation de présence. Ce qui se passe, c'est qu'on se sent présent, on se sent conscient. On dit, je suis distrait, j'étais parti dans une histoire là, 10 minutes au moins. Je m'en rappelle. Je reviens à la respiration. Au moment où je reviens à la respiration, il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère. C'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est qui change? C'est la conscience. On perçoit la conscience, on se sait conscient, on se sent conscient. Ce n'est pas une pensée, je suis conscient et je sais que je suis conscient. C'est une atmosphère dans laquelle on se trouve, en contact avec nous-mêmes. On sent cette présence. Elle est perceptible. On peut passer du temps là, on peut apprendre à la connaître. On peut devenir intime et familier avec ce qui est nous-mêmes, ce qui est le plus profond de ce que veut dire « je », notre essence. Et puis là, donc on mène l'enquête. C'est ce que je vous propose de faire cette nuit. Comme le Bouddha, c'était une enquête. C'était pas juste trouver la paix de l'esprit. Il a bien vu que dès qu'on arrêtait de méditer, la paix de l'esprit, elle partait. Il n'a pas trouvé les causes de l'agitation. Il faut trouver les causes de l'agitation. Et pour lui, il dit que les causes de l'agitation sont l'ignorance de notre véritable nature. On croit qu'on est des êtres des individus séparés. Et ça crée un espace de jeu pour l'égocentrisme et l'ego fantastique. Si on réalise qu'en fait on n'est pas du tout séparés et que ce qui est à notre essence, la conscience elle-même, n'est pas une entité spécifique, n'est pas un « je » en soi, à ce moment-là, l'ego n'a plus prise, il ne va plus s'entrer. Et déjà, rien que de se poser la question, ça met de la place. Il y a déjà un lâcher prise. Il va déjà y avoir beaucoup moins d'investissement dans la construction de cette image, de cette identité, parce que nos identités sont construites. C'est beaucoup de travail de construire une identité. Depuis qu'on est gamin, on construit, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et peu à peu, on ajoute des éléments et tout ça, et puis on se fait une belle, magnifique identité. Ou non. Elle n'est pas toujours belle, magnifique. Parfois, on peut avoir des identités qu'on n'aime pas du tout. Mais c'est une construction qui s'est faite peu à peu dans le temps. C'est pas quelque chose avec lequel, au premier moment, on était déjà. Ça s'est construit dans le temps. Et si des grands éléments de cette identité changent là, ce qu'on est en profondeur n'est pas affecté, ça ne change rien. Donc c'est une enquête à mener. Comme le Bouddha, je le disais, il ne cherchait pas juste à revenir au silence, il avait constaté que revenir au silence, il a été dans des silences immenses, des immensités de silence. Mais on en ressort et on en ressortira toujours. L'identité qu'on a maintenant réapparaît d'elle-même. c'est l'identification avec cette identité qui apparaît qui change dans la méditation. On va chercher un sens d'identité plus profond, plus universel, moins spécifique, moins construit, moins changeant. Et donc on médite avec une question. On médite avec cette question. Qui suis-je ? On médite avec cette question. C'est quoi la conscience ? Et là, pas pour y réfléchir, mais pour en faire une expérience de première main. On peut faire l'expérience première main de ce qu'est la conscience. On s'assoit, on calme l'esprit, on va se sentir présent, et là, on est conscient de notre conscience. La conscience prend conscience d'elle-même. C'est la nature qui s'observe. La mystique du taoïsme, Wei Wu Wei, disait, parlait toujours un peu dans le style un peu koan, et il disait ce que nous cherchons, c'est ce qui cherche. C'est ce qui voit les pensées que nous cherchons. C'est ce qui voit la respiration que nous cherchons. C'est ce qui voit les émotions qui vont et qui viennent que nous cherchons. C'est ce qui voit chaque sensation physique que nous cherchons. C'est ce qui s'en va dans la pensée et puis qui revient. C'est ce qui voit, c'est ce qui observe que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est ce qui cherche. Et là, dans cette nuit, on peut faire mille fois le chemin, mille fois d'être perdu dans les pensées, et c'est nickel, il n'y a pas de problème. Mais comme on est curieux, on fait l'expérience de quitter la pensée et de revenir à cette sensation de présence, en s'ancrant dans la respiration, en s'ancrant dans les sons, en s'ancrant dans les sensations physiques, dans quelque chose qui est là maintenant. On s'ancre et on va sentir une atmosphère, l'atmosphère de notre propre présence, le jeu, la source du jeu. Et de là, on peut se demander, est-ce que cette source est personnelle ? Est-ce que c'est mon intention ? Je suis présent. Qui est le jeu? Qui est le jeu qui est présent? C'est ma conscience. La conscience de qui? Est-ce que c'est pas juste la conscience et pas la conscience de Denis? Ben c'est des questions, hein. C'est des sacrées questions qu'on peut se poser, qu'on peut explorer, et ça libère. Et ça libère, ça nous sort un petit peu d'une confusion dans laquelle on ne sait même pas vraiment qu'on est. On voit juste le résultat de cette confusion qui est une espèce de plein de résistance avec ce qui se passe dans la vie et des peurs et un ego qui essaye de récupérer un petit peu tout ce qui se passe pour son propre bénéfice. Et on peut se poser la question, est-ce que ce que je sens en ce moment qui voit la pensée, qui voit la respiration, qui entend les sons, ce qui est là, qui entend les sons, qui sent les sensations physiques, est-ce que c'est personnel ou est-ce que c'est quelque chose de la même chose encore. Quand je suis dans ce moment-là, il n'y a plus de pensée, ou très peu de pensée. Il n'y a plus de sensation d'idée, trop de sensations d'identité construite, de personnalité. Ça n'apparaît pas. S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas ces mouvements de la personnalité. Dans ce moment-là, dans ce moment de profondeur, ce que je ressens, est-ce que c'est différent de ce que vous ressentez? Est-ce que c'est un monde privé ou est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Est-ce que c'est une source commune ou une source personnelle? On peut s'imaginer comme si on était tous des vitraux dans une cathédrale, on est tous différents, mais la lumière qui passe et qui prend cette couleur et fait les différences, c'est quand même la même lumière à chaque fois. C'est une image qu'on peut utiliser dans la méditation. On est là, on sent cette attention portée à la respiration, cette sensation de présence. On peut imaginer que c'est comme quelque chose qui vient, et comme la lumière qui passe à travers nous et qui touche ce qui est vu.
et on a toute la nuit. Alors il va y avoir des moments fous au pied du nez, hein, puis des moments ça va un peu mieux. Il va y avoir des moments où en soi, par soi-même, l'esprit est paisible, on n'est pas trop distrait, on n'est pas en train de dormir et pourtant voilà, il y a une espèce de sensation de présence. Et puis il va y avoir des moments de doute. Oh, j'irai quand même bien dormir là. Est-ce que je vais boire une tisane? Allez. Bon. Ah, et puis on va boire une tisane. Peut-être on aura une belle lune. Périgée, grosse. Puis on retourne un peu dans le hall. Voilà, il y en a un qui ronfle. Et on s'installe. Et on joue. On peut le voir comme ça et on joue. On joue à laisser partir notre attention dans des histoires et puis à la ramener et voir ce que ça fait. Pour connaître. Pour arriver à une certaine connaissance de soi en profondeur. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quand je remarque que je suis perdu dans mes pensées et que je reviens? Pas pour me dire, oh, quand même, tu n'y arrives pas, tu ne vois plus, nanana, et c'est reparti les pensées. Ah, perdu, là, game over. Là, il ne faut pas commenter. Hein. Quand on remarque qu'on est perdu dans nos pensées, il ne faut pas commencer à juger parce que ça aussi, c'est des pensées. Et il faut juste lâcher. Juste laisser tomber et revenir. Hop, on est là, ça tient deux secondes, ça tient deux secondes, c'est pas grave. Mais il faut revenir. Revenir, revenir encore. Il faut s'étonner de la différence. Pas simplement essayer de revenir, essayer d'être calme. Il faut s'étonner de la différence. Pour avoir une connaissance, il faut s'étonner de la différence. Maître Vieux Cheng, qui allait de monastère en monastère, je crois que c'est la tradition Chan, hein, je suis pas sûr. Bref, qui était un personnage, il avait activé les moines et tout ça, et il leur disait, mais vous croyez qu'en vous asseyant comme des bouts de bois, comme ça, vous avez trouvé quelque chose? Et en fait, il les avait activés parce qu'il dit, on cherche quelque chose, les gars. C'est pas juste revenir comme ça, tranquille, au silence, hein. Il y a une enquête qui se mène, là. C'est ça, l'essence du message du Bouddha, c'est aller voir par vous-même. C'est pas juste, je voudrais trouver la paix et le silence. Ça, c'est comme prendre un doliprane quand on a mal à la tête. Hein. Eh bien oui, on va trouver la paix et le silence. Ok, c'est super, il n'y a pas de problème. Là, on a réussi à maîtriser la concentration tellement bien, parce qu'on s'est super entraîné, qu'on arrive à ne plus avoir aucune sensation de soi. Ok, nickel. Mais quand on arrête, ça revient. On n'a pas solutionné la racine. L'illumination n'est pas une expérience. C'est une expérience que l'on comprend. C'est la compréhension de l'expérience qui libère. C'est pas juste l'expérience. Ça se trouve, on l'a déjà eu. Mais on n'a pas compris ce qui nous arrivait, et du coup, on repart. C'est la compréhension de l'expérience. Donc, il y a une recherche, il y a une dynamique de recherche. On n'est pas assis comme des bouts de bois. À son niveau, chacun, en fonction de ce qu'il comprend, là où on en est, on démarre là où on en est, de toute façon. De toute façon, ça fait du bien. Parce qu'on lâche prise, on lâche prise. Déjà, on se met à questionner la solidité de notre identité. Déjà, ça, rien que ça. Même si on n'a aucune réponse, même si on n'a pas été y voir très profond, le fait de savoir qu'on ne sait pas ce qu'on est vraiment, et d'acter sur ce savoir, c'est libérant, ça nous transforme, ça nous change pour plus d'ouverture, pour pouvoir vivre avec plus de cœur, plus de tolérance, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, c'est tout bénéf. À la fin de ce discours, on va rester en silence, et je vous invite vraiment à vivre toute cette aventure. Donc, si vous ne faites qu'une partie de la nuit, ce n'est pas du tout grave. Mais la partie que vous faites, à la vivre avec intensité. Déjà en laissant de côté tous les doutes. Oui, je suis juste débutant. Ah oui, à ma concentration, c'est terrible. Ce n'est même pas la peine que j'y pense. Tous ces doutes-là. Si on pouvait les laisser de côté déjà, et juste aller y voir un petit peu. Qu'est-ce que ça change quand je suis conscient? Quelle est la différence entre être conscient et être perdu dans les pensées? Qu'est-ce que ça change? Voilà. Et si on a des petits moments de présence il y a eu de grands moments d'absence, c'est pas grave. Si on est suffisamment curieux, on va apprendre. D'où vient ceux qui connaissent, ceux qui observent? Est-ce que je peux être familier avec ceux qui observent? Est-ce que je peux ressentir? Est-ce que je peux voir dans mon expérience que toute chose est vue? Chacun son petit bonhomme de chemin. Utilisez bien la respiration, revenir à la respiration, au son ou aux sensations physiques. Il y a quelque chose, un état d'esprit nécessaire entre un mélange de douceur et de fermeté pour une nuit universelle. C'était aussi dans les conseils du Bouddha. C'était aussi après avoir lui essayé toutes les extrêmes, parler de la voie du milieu, cette douceur et cette fermeté. Il disait à un sitariste qui lui posait la question sur l'effort exact, il disait, c'est comme la corde de ton sitar, si elle est trop tendue, elle casse, si elle n'est pas assez tendue, elle ne sonne pas. Et au niveau de notre effort, c'est pareil. On va sur le coussin de méditation avec une espèce de tranquillité. Allez-y sans crainte, sans croire les critiques intérieures qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que ça ne va pas changer grand-chose, de toute façon vous n'aurez pas compris grand-chose, ça n'a rien à voir. Juste avec une certaine tranquillité, ramenez l'esprit. Encore et encore et encore. Observez les différences entre distrait et présent. Et interrogez-vous, qu'est-ce que c'est être présent? Quelle est ma relation avec ce qui voit, avec cette conscience? Je vous souhaite à tous une très belle nuit de Wessac, avec des belles méditations. Qu'elle soit fructueuse, qu'elle révèle quelque chose, qu'elle nous ouvre quelque chose. Et ce que je vous souhaite vraiment, c'est d'avoir vraiment des moments de plaisir, même s'il y a la fatigue, même s'il y a des moments où il y a du doute. Ok, c'est pas grave, c'est normal. Normal, le doute. Mais si j'ai du doute, est-ce que je vais pouvoir m'asseoir toute la nuit? Bah ouais, bah, c'est pas grave, on verra. Ok, mais d'y aller avec plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon moment. Merci pour votre écoute.